C'est qui le patron ? L'émission qui met à nu les patrons. Préparée et présentée par Cyril Guy sur RVB.
Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans C'est qui le patron ? L'émission qui met à nu les patrons du territoire. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les patrons sans oser le demander, je m'en charge. Je suis Cyril Guy, je suis ravi d'accueillir mon premier invité. Si vous imaginiez un patron en costard-cravate, l'air grave et le cheveu gominé, mauvaise pioche pour mon premier invité qui semble plutôt tout juste descendre d'une scène de festival rock. J'ai le grand plaisir de recevoir Fabrice Camus, artisan vigneron, indépendant à Montbazillac et fondateur de la marque Les Aventuriers. C'est hors des sentiers battus et là où on ne l'attend pas qu'il creuse son sillon. Bousculant les codes habituels du vin, troisième génération du domaine de la Lande, à la tête de l'exploitation familiale depuis 1999, il conjugue approche moderne, tempérament rock et une certaine vision de l'onotourisme. Vin de Montbazillac, vin de France, blanc, rosé et rouge, il prend à bras le corps son métier et en livre une version très perso de celui de patron. Bonjour Fabrice, bienvenue.
Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation.
Alors Fabrice Camus, on a besoin de savoir plein de choses sur vous. Votre nom, prénom, vous venez de nous le donner. Quel âge, quelle situation? Vous êtes installé dans le cœur de Montbazillac ou à côté de Montbazillac et vous avez juste récupéré l'appellation?
Oh, ça fait beaucoup de questions d'un coup là. Quel âge on est 52, je crois. Ouais. Installé en plein cœur du vignoble de Montbazillac, à Montbazillac même. Et producteur de père en fils. Donc non, je suis tombé dans le chaudron il y a bien longtemps.
Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas le visuel sur Fabrice Camus, aujourd'hui je disais descendu d'un festival rock, 50 et quelques, pas de calvitie, mais une coupe de cheveux un petit peu particulière. C'est voulu, c'est subi?
Non, pas du tout subi. C'est un choix personnel. Disons que après la cinquantaine, on prend la décision de vivre sa vraie vie. Apparemment, la deuxième page se tourne après 50 ans. Donc, tout ce qui a été mis de côté pendant toute la jeunesse ressort à ce moment-là. Et donc, on assume totalement une demi-iroquoise, on va dire. Parce que le devant, il y a encore des cheveux. Le derrière, il y en a un peu moins. Donc, voilà, on assume.
Moi, j'adore ce côté assumé. Vous parliez de jeunesse. Vous êtes né où, Fabrice?
Très, très loin d'ici, à Bergerac.
Né à Bergerac. Donc, vous êtes bien installé dans cette vallée bergeracoise. Petit, il était comment, le petit Fabrice Camus, avec ses collègues?
Alors, le contraire de maintenant. Très, très calme. Très, très timide. Un petit garçon, pas forcément très, très bon à l'école, mais dans la moyenne, on va dire. Dans la moyenne.
Et alors, quand on était à l'école primaire bergeracoise, c'était quoi les rêves de Fabrice Camus?
Alors, attention, il ne faut pas confondre. À Montbazillac, on est à la campagne, mais on a quand même des écoles. Donc, l'école primaire s'est faite à Montbazillac. Je suis descendu à la ville après pour la grande école. Mais je n'ai pas rêvé à grand-chose de plus qu'à de la vigne, parce que je pense que mes premiers tours de tracteur se sont faits sur les 5-6 ans. Sur les genoux de mon grand-père, j'étais déjà dans les vignes, je pense, aux alentours des 6 ans.
Donc si je comprends bien, complètement destiné à reprendre le domaine, par passion, par choix ou par obligation?
Par passion, parce que comme Obélix, je suis tombé dans le chaudron très très tôt. Et puis de toute façon, il vaut mieux faire ce métier par passion, parce que le monde agricole est un milieu très rude. Donc si on n'est pas passionné, c'est pas la peine de se lancer là-dedans.
Alors quand on est tombé dedans tout petit, quand on est passionné, quand on vit au milieu des vignes, il y a bien un souvenir d'enfant qui reste et qui vous rattache, vous rapproche à ce terroir?
Des souvenirs d'enfance, il y en a forcément énormément. C'est des tours en tracteur avec le grand-père. Je pense qu'un souvenir les plus rigolos, c'est comme tous les gamins ont fait certainement, c'est dans les chais pendant les transvasements de vin. Le doigt qui se trempe dans un récipient où il y a du vin et on goûte.
La première ivresse.
Disons que l'avantage chez nous à Montbazillac, c'est des vins sucrés. Donc les vins sucrés, pour les enfants, c'est une approche assez, assez facile. Donc la loi E20 n'était pas encore trop présente. Donc peut-être pas la première ivresse, mais les premières sensations de vin sont arrivées assez jeunes. Mais c'est juste un doigt trempé.
Donc on est d'accord, c'est une passion, c'est pas un alcoolisme.
Non, c'est une passion.
Même si jeune, vous avez déjà découvert les joies du bonheur, les joies et le bonheur de pouvoir déguster ce qui était produit sur la propriété.
C'était pas vraiment une dégustation à l'époque, mais c'était une découverte, ouais, certainement.
Très bien. Dans cette période où vous avez croisé la joie du Mont Basiac, est-ce que vous avez envisagé faire un autre métier? Est-ce que familialement, on vous a dit « Oh, tu devrais aller plutôt vers un autre métier » ou vraiment, il n'y a jamais eu d'hésitation?
Non, il n'y a eu aucune hésitation. Quand à la fin du premier cycle de la grande école à Bergerac, j'ai demandé une orientation vers un BEP Vitiono. Mes parents ont été convoqués à l'époque par la conseillère d'orientation pour me faire changer d'avis, tout simplement parce qu'il fallait qu'à l'époque, on passe le bac. Les enfants qui n'avaient pas le bac, eh bien, c'était des tocards. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais m'orienter vers un BEP, puis après un BTA, et puis après un BTS, mais dans la viticulture toujours.
Donc, si je comprends bien, la grande école, c'est jusqu'au BTS.
La grande école, pour moi, c'est jusqu'au BTS. Et franchement, après le BTS, c'est le DNO, c'est 3 ans de plus, c'est finir ingénieur. Sincèrement, je n'avais pas envie et je n'avais très certainement pas non plus les capacités.
Très bien, Fabrice. On vous a découvert sur cette première partie de votre jeunesse. On vous a posé la question, quand on a préparé cette émission, quelle chanson vous ramène à votre jeunesse? A priori, ça serait Dire Straits avec On Very Strip. Donc écoutez, je vous laisse écouter tranquillement ce morceau et on se retrouve après.
Ok, merci. Pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for on every street. Lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heel. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load, and the fireworks over liberty explode in the heat. It's your face I'm looking for on every street. We'll be right back.
Voilà, de retour après la pause musicale plutôt iconique que Fabrice nous a proposée. Fabrice Camus, notre invité dans C'est qui le patron ? Vigneron, artisan vigneron, je sais que ça vous tient à cœur. On a fait un petit balayage de votre jeunesse, de votre découverte avec l'alcool. Vous avez précisé qu'il faut consommer, mais avec modération, évidemment, surtout pour les plus jeunes. Fabrice, on va rentrer dans le cœur du réacteur et je voudrais savoir comment s'est passé votre premier jour de patron.
Ouais, il est loin celui-là. Alors, premier jour de patron, c'est pas franchement ce que je retiendrai. Ça s'est bien passé, voilà, comme un patron. Je travaillais à la vigne déjà depuis pas mal de temps, donc c'est pas ça que je retiendrai. Là où on prend la considération de la chose, c'est à la première mise en bouteille. Quand on sort la première bouteille de la chaîne d'embouteillage et qu'on voit son nom au bas de l'étiquette, c'est le souvenir que je me fais de la première vision de patron et de se dire, ça y est, c'est moi qui sors le bébé, quoi.
Son nom, alors, mais si j'ai bien compris, vous avez repris l'exploitation familiale, il y avait déjà le nom, donc on avait rajouté le prénom.
Alors, le nom, oui, effectivement, est historique, puisque c'est mon grand-père qui a créé la structure de toute pièce.
Troisième génération ?
Troisième génération.
Un qui crée, un qui développe et vous
Normalement, qui la mange.
Ah, c'est un peu l'adage.
C'est ça. Donc, il me reste encore une dizaine d'années avant la retraite pour manger le reste du biscuit. C'est en train de se faire gentiment, malheureusement, avec les conditions de production et commerciales actuelles.
Alors, on va y revenir. Vous nous avez précisé artisan, vigneron, viticulteur. On s'y perd. C'est quoi le métier ?
Alors, mon métier, c'est vigneron. La différence entre le viticulteur et le vigneron, le viticulteur est producteur de raisins. On a la cave coopérative de Montbazillac, qui est le plus gros metteur en marché à l'heure actuelle. Donc, ce sont des viticulteurs qui produisent du raisin, mais ils ne font que la production du raisin. Ensuite, la vinification est faite dans un pot commun à la cave coopérative. Nous, la différence, on est vigneron dans le sens où on produit les raisins, on les transforme en vin dans nos chais. Et on fait la partie commerciale. Donc, on fait du début jusqu'à la fin.
Donc, c'est vachement plus rentable.
Ça prend beaucoup plus de temps. Disons qu'après les vendanges, on n'est pas en vacances. Nous, on a des vinifications à faire. On arrive à revaloriser quand même nos produits en faisant effectivement de la vente directe. Mais c'est un autre travail.
Parce que vu de l'extérieur, c'est quand même un métier où on travaille avec du vivant. On laisse la plante proposer le raisin, on vend dans 15 jours par an, on vend quelques bouteilles. Ça a l'air d'être peu prenant en termes de temps et plutôt très rentable.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que le Parisien lambda se fait comme idée de notre métier. C'est qu'en fait, on a une plante qui se développe toute seule. Et puis, on a 15 jours de boulot par an quand on fait les vendanges, effectivement. Et puis après, on attend le chèque en fin d'année. Ce n'est pas vraiment le cas. On a du travail toute l'année. C'est une plante, c'est avant tout une liane. Donc, si on ne s'en occupe pas, eh bien, elle finit par pousser comme des arbres. Donc, non, c'est du travail à l'année pleine.
Alors, en 30 secondes, une année complète, elle est phasée comment ?
Là, on démarre par la saison hivernale, donc, c'est-à-dire les travaux d'hiver, c'est la taille, le tirage des bois, c'est-à-dire qu'on élimine les bois qui ne nous servent à rien.
Ah si, le sarment pour l'entrecôte.
Exactement. Je vous invite d'ailleurs à la période de tirage de bois de venir en faire quelques hectares pour vous faire des fagots de sarment. Vous verrez, c'est très très drôle à faire. On apprécie vraiment l'entrecôte une fois qu'on a fait ses propres fagots.
Je note l'invitation, Fabrice.
Donc ensuite, on a le pliage. Ça, c'est vraiment la fin des travaux d'hiver. Ensuite, on va arriver dans une période à laquelle on est là, c'est-à-dire travailler sur le végétal vert, on va dire, avec la pousse vraiment. Donc, c'est les palissages, c'est les épamprages. Le palissage, c'est mettre en forme les rampes pour éviter la casse avec les passages mécaniques. L'épamprage, c'est élimination des rejets qui ne servent à rien. Après, on va arriver, on a toute cette période-là, c'est aussi l'entretien des sols, les tontes, etc. Enfin, voilà, tout le travail sur le végétal et sur le sol. Et puis après, on va arriver à la phase qui est la plus intéressante pour nous, c'est les vendanges, c'est-à-dire on arrive vraiment à la période où on a le résultat de tout notre travail de l'année. Donc là, on vendange suivant les périodes de septembre, on va dire, à octobre. Et puis après, on arrive à la période des vinifications qui sont à l'intérieur du chai.
Vous avez vraiment une action possible sur la quantité, la qualité du vin, ou c'est la nature qui décide pour vous ?
Alors la nature, elle décide et la quantité et la qualité. Nous, on intervient à notre petite mesure, c'est-à-dire que La première intervention sur laquelle nous, on a un impact, c'est la taille. C'est la période de la plus décisive, en fait. C'est rigolo à dire parce que les gens pensent que c'est la date de récolte, c'est au moment de ramasser le raisin que c'est important. Non, tout le travail se fait en amont. C'est vraiment au niveau de la taille que le vigneron a son impact. Mais après, la nature fait le reste. On sort de 6 ou 7 années de misère de production parce que justement, la nature n'a pas voulu qu'on produise comme il faut. Dame Nature a décidé ainsi. On a eu de la grêle, on a eu du gel à répétition, on a eu de la sécheresse, on a eu des attaques de mildiou. Voilà, suivant les années, on a toute une ribambelle d'ennemis à la production. Et là, cette année, on part du principe qu'on s'en sort pour le moment très bien parce qu'on a une belle sortie de raisin. Mais bon, le chemin est encore long, quoi.
Vous qui êtes au contact de la nature en permanence dans vos vignes, changement climatique, c'est une réalité ou c'est une illusion ?
Alors, c'est une réalité. L'impact qu'on peut avoir dessus, nous, c'est un questionnement de tous les jours. Mais on a tendance à faire réagir nos clients en discussion, en caveau. On leur parle de réchauffement climatique et on leur parle aussi de gel de printemps. Donc les gens s'interrogent. On dit, mais vous me parlez de réchauffement et de gel, c'est en opposition. Oui, en fait, le réchauffement climatique fait partir la plante très, très tôt dans la saison, trop tôt dans la saison. Et après, donc, on s'expose à des rafraîchissements brutaux dus au dérèglement climatique qui nous gèlent les parties produites annuellement et qui nous enlèvent de la récolte.
Très bien. Quand on a fait tout ce travail, on arrive sur la période des vendanges. Période des vendanges qui est toujours une période très festive. Alors vous, quand c'est festif, vous avez une hymne. Ou un hymne, on va dire plutôt, c'est Scape al Val del Obero. On va écouter ça tranquillement et puis après vous nous raconterez pourquoi les aventuriers.
Ok, avec plaisir.
Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego.
Resist!
À nouveau de retour dans C'est qui le patron avec Fabrice Camus. Fabrice Camus, domaine de la Lande, les aventuriers. Pourquoi les aventuriers? Pourquoi le domaine de la Lande? Développez, expliquez-nous comment vous avez... C'est une marque commerciale? C'est un lieu-dit? Comment on est arrivé là?
Alors, domaine de la Lande, au départ, oui, ça part d'un lieu-dit. Tous les domaines portent les noms de lieux-dits. Les anciens n'étaient pas très, très compliqués dans leur tête. Donc, voilà, généralement, les noms de châteaux, les noms de domaines, c'est le lieu-dit. Donc, mon grand-père a créé donc, le domaine de la Lande. À l'époque même, c'était le clos de la Lande. Historiquement, parce qu'on est le lieu-dit la Lande, tout simplement. Donc j'ai exploité ça pendant quelques années, et à une époque, il y a maintenant à peu près 17-18 ans, le monde du vin se portait déjà pas très bien, et donc le domaine étant petit, j'ai préféré me sortir de l'appellation Bergerac. J'ai gardé l'appellation Montbazillac, bien sûr, pour moi, Montbazillac, et je suis sorti de l'appellation, des appellations Bergerac pour faire des vins autrement. Donc je me suis... dirigé naturellement vers les vins de France qui permettaient, eux, de produire des choses complètement atypiques. Et c'est pour ça que ça apparaît maintenant sur tous mes panneaux de, on va dire, de publicité ou mes tarifs. C'est des vins autrement, en fait.
Très bien. Vous venez de nous dire que le vin se portait déjà pas très bien, mais on imagine tous les vignerons dans un château magnifique avec des revenus extraordinaires. On vient de faire le point sur comment on arrivait aux vendanges. On a écouté l'hymne des vendanges, on est sorti de la vendange, on a ce breuvage qui est toujours à consommer avec modération, nous devons le rappeler, qui est prêt à être mis en bouteille. Vous nous avez aussi parlé tout à l'heure de votre première bouteille avec l'appellation Fabrice Camus. C'est quand même très rentable de vendre du vin aujourd'hui.
Oui, on habite tous dans des châteaux. Et on se déplace en calèche, donc avec des servantes. Oui, on a tout l'attirail que vous imaginez bien. On a même des serviteurs qui jettent des pétales de rose sur notre passage. C'est la période. Donc voilà.
C'est encore mieux que ce qu'on s'imagine.
Oui, on mange du foie gras tous les jours.
Ça, c'est parce qu'on est dans la vallée du Bergerac et dans le Périgord. Et on a droit aux frites le dimanche pour varier, ça oui.
C'est ça. C'est exactement la vie de tous les jours des vignerons et des paysans à l'heure actuelle. Je ne veux pas ternir trop le tableau, mais...
Non, on est là juste pour dire la vérité, pour mettre à nu un patron.
D'accord, mais c'est la misère. disons qu'il n'y a plus de fenêtres au château, les toitures ont des trous, et la calèche, il lui manque deux roues. Donc voilà la vie actuelle. Non, sans plaisanter, le monde agricole va très mal, en général. Nos pouvoirs publics se moquent éperdument de nous, de notre avenir, bien au contraire. Donc le monde agricole va mal. La viticulture, qui fait partie du monde agricole, était un peu, avait la part belle de ce milieu agricole. On passait pour les riches il y a encore une dizaine d'années pour le monde agricole. Maintenant, les richesses ont tout fondu au soleil. C'est un peu le réchauffement climatique. C'est vraiment très, très dur. On est rentré dans le dur. On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique. On a subi une 6, 7, 8 années de malproduction. Donc déjà, on produit mal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les rendements. La qualité est liée parce que le moyen de raisin, plus il est bon. Mais enfin, au bout d'un moment, il faut remplir des bouteilles pour pouvoir les vendre.
Alors justement, remplir des bouteilles pour pouvoir les vendre. Aujourd'hui, on s'interroge quand on est consommateur, quand on va dans une cave, quand on va dans un château, quand on va dans un clos. On voit des bouteilles à 8, 9, 10, 20, 100, 200, 500 euros la bouteille. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la différence entre un vin à 10 euros et un vin à 50 euros? C'est que de la marge, c'est que de la commercialisation de la cave. Il y a un vrai travail derrière.
Alors, il y a un travail. Il y a des vins qui sont vendus à ces prix-là. Il y a forcément du travail. Après, c'est du business.
Marketing?
Techniquement, oui. Techniquement, on va parler des vins rouges. Il faut un vin rouge jusqu'à 25 euros. La bouteille, c'est pour moi travailler après une étude d'un peu de marché, c'est travailler au top. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on a, toutes les épreuves qu'on a fait subir au raisin et au vin, c'est le top. Au-delà, c'est du business. C'est-à-dire que si on veut produire du top à l'heure actuelle, pour un rouge, encore une fois, 25 euros, c'est le prix que ça vaut.
Alors Fabrice, si on prend une bouteille à 20 euros, elle est composée de quoi? Le verre, le bouchon, le produit? Vous pourriez nous détailler, jusqu'à nous expliquer la marge. Je suppose qu'il n'y a aucune taxation à payer sur le vin aujourd'hui.
Non, bien sûr. Bien sûr, en fait, on produit de l'alcool et on le vend sous le manteau. Et c'est pour ça que, en fait, les roues de la charrette sont cassées, mais on a une Ferrari dans le garage, mais qui est bien cachée, elle.
Non, mais le vin est soumis à TVA aujourd'hui ?
Le vin est soumis à toutes les taxes normales, TVA. C'est pour ça que le vin circule sous une Marianne, une capsule congé. C'est la redevance de droit de circulation. Et puis après, on paie nos charges comme n'importe quel entrepreneur. Nous, c'est la MSA qui nous ponctionne. Vous, c'est certainement autre chose. Mais nous, c'est la MSA qui chaque mois nous coûte énormément d'argent.
Alors, sur ma bouteille à 20 euros, ma bouteille en verre, c'est quelques euros. Le bouchon, l'étiquette. Le produit, ça représente quelle valeur sur ces 20 euros et qu'est-ce qui reste au vigneron ?
Alors le produit, tout dépend encore une fois ce qu'on veut faire dessus. Si on veut intervenir énormément avec de la main d'œuvre, ben, c'est ce qui nous coûte à l'heure actuelle en France le plus cher. Avec les taxes, on sait très bien que payer de la main d'œuvre pour faire des interventions, c'est pas gratuit. Nous, on le subit totalement dans le Mont-Bazillac, parce que Mont-Bazillac, c'est une obligation de vendanger ça à la main, par tri successif, donc là, c'est là où on emploie le plus de main-d'œuvre. Mais l'intervention humaine, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Après, du vin à produire, si on minimise tous les frais de production, on va arriver à produire sur une bouteille, on va arriver à produire à 3 euros, à peu près 3 euros, 2,50 euros, 3 euros de vin. C'est-à-dire que si on prend l'habillage, en gros, ce qu'on appelle l'habillage, c'est les matières sèches, donc bouteille, bouchon, étiquette, carton, etc., on arrive à 1,50 euros. Donc, sur des bouteilles vendues à 6 euros, oui, le vigneron arrive à marger à peu près à 3 euros, on va dire. Tout ça, TTC. Donc, il faut enlever la TVA. Et puis après, il faut enlever toutes les charges fiscales qui sont dessus.
Oui, le tracteur, le gasoil, tout le travail qu'on a vu dans la partie précédente qui permet à cette fameuse liane, pour reprendre vos mots, de devenir une vigne et de nous apporter ce formidable raisin. Donc, une fois qu'on a réussi à produire, il faut commercialiser. Tout à l'heure, vous nous avez parlé donc des aventuriers. Vous êtes sorti des appellations. Ça veut dire quoi sortir de l'appellation et produire en vin de France ? Et pourquoi avoir une marque aujourd'hui pour commercialiser ?
Alors, quand on produit du vin, il y a une réglementation en cours. Donc, dans le Bergeracois, comme partout ailleurs, dans tous les vignobles, on a un cahier des charges. Donc, ce cahier des charges, il faut le respecter dès le moment qu'on veut faire de l'appellation. Si on veut travailler différemment, faire des vins autrement, il faut choisir son propre chemin. C'est-à-dire que pour moi, c'était le vin de France, c'est-à-dire un vin qui n'a plus aucun cahier de charge. Simplement, le vin doit être loyal et marchand. Donc après, libre cours à l'imaginaire du vigneron pour faire des vins carrément différents de l'appellation.
Alors je me suis laissé dire que Fabrice Camus a commencé à faire des vins sucrés. Ça veut dire quoi des vins sucrés ?
Alors, quand on parle de vins sucrés, c'est des vins avec résidus de sucre. C'est en aucun cas des vins auxquels on rajoute du sucre. On ne s'amuse pas à rajouter des carrés de sucre dans nos bouteilles. C'est simplement le raisin est chargé en sucre et sous l'action des levures, ce sucre se transforme en alcool. Et si on bloque l'action des levures à un certain moment, le vin est moins alcoolisé, mais il contient du sucre, ce qu'on appelle le sucre résiduel.
Et ça, ce n'est pas la mémoire de l'enfance quand vous trempiez le doigt dans ce fameux Mont-Bazillac ?
Peut-être, c'est un retour à l'enfance. Mais donc voilà, alors le Mont-Bazillac contient toujours du sucre résiduel, c'est un vin liquoreux. Sur le secteur, on a d'autres vins sucrés aussi, il y a des moelleux, etc. Mais moi, ça m'a permis le fait de passer en vin de France et de travailler sous l'étiquette Les Aventuriers, qu'on a déposé en marque commerciale. Ça m'a permis de sortir, il y a plus de 15 ans, les premiers rouges sucrés du secteur.
Après votre intervention qui nous a expliquer les difficultés que vous pouvez rencontrer. On va faire un petit peu d'amour, Fabrice. On va écouter votre chanson Scorpion avec Sting Lovinio.
To win back your love again, I will be there.
C'est qui le patron? Retour dans cette quatrième partie de l'émission avec Fabrice Camus. Fabrice, on est resté aux aventuriers. Alors pourquoi ce jeu de mots?
C'est très compliqué à comprendre. C'est tout simplement l'aventure du vin, les aventuriers.
Alors moi, je vous ai vu sur des foires et j'ai vu que vous présentiez vos vins avec un véhicule un peu particulier. Tout à l'heure, vous nous parliez de calèche. Bon, personne n'y a cru, bien évidemment. Mais vous roulez avec quoi aujourd'hui alors?
Vaste question.
Terrible engin ?
Oui, les gens ont l'habitude, quand je fais visiter mon chai, ils ont l'habitude de me dire « Ah, vous avez des cuves en fibre de verre. » C'est pas très joli, c'est pas très glamour. C'est vrai que ça brille beaucoup moins que les cuveries en inox, mais avec une différence de prix énormissime, au lieu d'acheter des cuves en inox, j'ai plutôt acheté des motos. Donc j'ai pas tout mis dans mon matériel vinicole, on va dire.
Le monde du vin est quand même très codifié avec ses châteaux, ses dégustations, ses spécialistes. Vous, Fabrice, aujourd'hui, aventurier, en moto, avec un look un peu particulier, ça se passe comment dans le monde du vin et comment vous arrivez à commercialiser?
Alors ça se passe, comme on disait tout à l'heure, assez mal. La production est faible, mais la commercialisation a ses difficultés, elle aussi, parce que malheureusement, on parlait tout à l'heure de la loi Evin qui nous fait de plus en plus mal. Avant, on parlait de consommation avec modération. Alors déjà, ça nous a un petit peu posé problème. Mais là, maintenant, la consommation, elle est à zéro. La revendication de l'État français demande aux gens de plus rien consommer. On ne parle même plus de modération. Donc, ça devient très, très compliqué. Le pouvoir d'achat des gens n'est pas forcément à l'apogée. Donc, entre les lois qui font que la consommation d'alcool et de vin, à proprement dit, devient compliquée et mal vue par l'État, plus un pouvoir d'achat assez faible, pas forcément un pouvoir d'achat faible, mais les gens sont très frileux. Déjà, ils payent le gasoil très très cher. Nous, on fait de l'accueil à camping-car depuis plus de 20 ans.
Alors oui, je voulais qu'on rebondisse sur cette particularité de l'onotourisme. Aujourd'hui, donc, de la difficulté à commercialiser. Une fois que vous avez chevauché votre terrible engin, vous partez à la conquête des marchés ou les gens viennent acheter chez vous ?
Non, alors avec mon épouse, on a essayé de faire développer un petit peu ce marché, on va dire national, avec des foires et des salons. En fait, c'est pas pour nous, parce que tout simplement notre structure est trop petite. Et comme on travaille, je travaille seul. Alors, ma chérie fait tout ce qui est paperasse, et ça, de nos jours, sur une propriété, ça devient très 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 problématique et très très pesant. Est très énergivore, donc elle fait tout ça dans l'ombre et c'est déjà pas mal. Et donc on se voyait pas partir tous les week-ends en salon, revenir et puis travailler, enchaîner avec le travail de la vigne et du chai au retour. Donc on a essayé ça pendant quelques mois. Et puis avant de se retrouver enroulé autour d'un platane avec la fatigue, on a préféré abandonner. Et puis en plus, les foires et les salons coûtent très très cher. Et les meilleures places sont très difficiles à prendre. Donc
et ça vous mange la marge de faire des foires et des salons. Il reste après plus rien sur ce que vous avez vendu. Vous avez vendu pour le plaisir de vendre. On se pose la question, une exploitation comme la vôtre, c'est combien de bouteilles à vendre dans l'année ?
Alors, sur la possibilité, tout dépend en fait des bouteilles. On pourrait en faire des centaines de milliers. Voilà, il faut les vendre. Si on les a dans le chai et qu'elles sont empilées en carton, ça, c'est de l'immobilisation et ça nous rapporte rien et ça nous coûte des sous. Donc moi, à l'heure actuelle, sur mon domaine, comme tous mes collègues, on conditionne ce qu'on est capable de vendre. C'est-à-dire que chez nous, on fait entre 12 et 14 000 bouteilles par an qui sont vendues au domaine, uniquement au domaine.
Oui, ça représente quand même un volume important. Donc plus de foires, plus de salons, plus de terrible engin à chevaucher pour aller commercialiser. Le no-tourisme, alors c'est quoi le no-tourisme et c'est quoi la commercialisation par le no-tourisme ?
Alors le no-tourisme, c'est un joli nom très actuel. Tout le monde en parle de no-tourisme. Tout le monde essaie d'avoir l'idée du siècle de génie. Le no-tourisme, c'est tout simplement amener des clients d'une manière ou d'une autre dans nos propriétés. Alors c'est des découvertes par dégustation, par visite de domaine, etc. Il y a multiples facettes. Nous, notre développement, il s'est tourné vers les camping-caristes. On accueille depuis plus de 20 ans. On a été les premiers dans le secteur de Montbazillac à accueillir des camping-cars à la propriété. Donc le deal, c'est un accueil gratuit, c'est-à-dire que les gens arrivent, ils se posent chez nous.
Donc ils ne payent pas leur place quand ils viennent chez vous ?
Non, on fait partie du réseau France Passion depuis le départ, et c'est une des revendications
absolues. Ça vous coûte d'être France Passion ?
Ça me coûte, en fait, France Passion, c'est un système, ils ont un book qui référence tous les châteaux et les domaines qui accueillent au niveau national. Et pour avoir ce book en main, les camping-caristes payent une redevance, je crois qu'il y a à hauteur de 25 euros par an pour avoir toutes les adresses. Et moi, ça me coûte le même prix. C'est-à-dire que ça me coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros par an.
Pas par camping-car, on est d'accord.
Non, ça, les 20 ou 30 euros, c'est juste pour apparaître sur le guide. Et après, l'engagement qu'on fait, c'est les accueillir gratuitement et fournir les commodités qu'on veut bien leur offrir, c'est-à-dire que ça peut être simplement à la base un emplacement, simplement. Après, on peut fournir de l'eau, on peut faire des vidanges si on a l'équipement adapté.
Tout le nécessaire de l'environnement du camping-car. Alors une fois que ces camping-caristes sont installés chez vous, comment le commerce se met en route ? Comment vous arrivez à leur proposer vos vins ? Comment vous arrivez à les convaincre qu'ils achètent le meilleur vin ?
Alors déjà, tout le monde arrive en camping-car, ils ont l'habitude d'arriver à n'importe quelle heure de la journée, j'allais dire de la journée et de la nuit, ça arrive. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, les emplacements sont bien déterminés. On a planté des rangs de vignes qui font office d'emplacement pour les camions, donc ils peuvent s'installer même si on n'est pas présent. Et ensuite, on a l'habitude de les réunir tous les soirs aux alentours des 18h pour faire une petite dégustation, une présentation de nos produits. Ceux qui veulent visiter le chai peuvent le visiter. Et là, on leur permet de déguster nos produits, de les découvrir. 100% de nos produits achetés sont dégustés, ça on y tient. C'est pas de la vente en rayon, c'est pas du supermarché, c'est pas du linéaire. C'est-à-dire que chaque client qui repart avec une bouteille, normalement, il a goûté le vin. Et pour ça, j'ai une arme absolue, elle s'appelle Toto. Toto, c'est mon
Alors,
père.
Alors Toto, il faut nous expliquer quel est ce personnage. Quand on va sur le site des aventuriers, qu'on lit les avis, Tout le monde nous parle de ce fameux Toto qui serait le meilleur vendeur du quartier. Il semblerait que la dégustation, c'est une pièce de théâtre chez les aventuriers.
Ouais, grâce à Toto. Alors Toto, je me permets de dire Toto. Toto, personne connaît quasiment son prénom, mais c'est Jean Camus, donc mon père.
C'est le papa.
C'est le papa, ouais, qui a eu ce sobriquet quand il était petit, et qui faisait une pièce de théâtre. Et donc Toto est connu sur la France entière, voire l'Europe entière, parce qu'effectivement, c'est un vigneron qui a la bosse du commerce. Moi, quand je fais la dégustation avec mes camping-caristes ou mes clients, c'est une dégustation assez technique, on va dire. On parle vraiment de vin, tout à l'opposé de mon père qui, lui, fait une pièce de théâtre, effectivement, et va parler de tous ses voyages, de tout. Pas de technique, mais c'est un très, très bon commercial.
Donc Toto, aujourd'hui, il arrive à commercialiser 100% de la production des aventuriers.
Alors Toto, à lui tout seul, ne commercialise pas 100%. J'arrive à en commercialiser moi-même quelques pourcents, mais c'est vrai que c'est souvent lui qui est d'Abstrente à la boutique. Oui, on arrive, en fait, il y a très très peu de ventes, on va dire, par correspondance. Donc l'ensemble des ventes se font au domaine et se font au caveau après dégustation.
Donc, comme aurait dit Toto, pour la suite de cette interview, on peut écouter Nado qui a dit « Mon Dieu, que je suis à l'aise ».
Mon Dieu, que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. Quand tu seras dans ces campagnes, tu n'y penseras plus à moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Si fait, si fait, si fait ma belle, j'y penserai toujours à toi. Je m'en ferai faire une image à la semblance de toi. Je m'en ferai faire une image tout à la semblance de toi. Quand je serai à table à boire, à tous mes amis je dirai: chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Chers camarades, venez voir celle que mon cœur a tant aimée. Je les aimais, je l'aime encore, je l'aimerai tant que je vivrai. Je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé. Je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis au trépassé. Alors j'ai versé tant de larmes que trois moulins en ont tourné. Petit ruisseau, grande rivière, pendant trois jours ont débordé. Petit ruisseau, grande rivière, pendant trois jours ont débordé. Mon Dieu, que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis embrasse-moi.
Retour dans la dernière partie de C'est qui le patron avec Fabrice Camus. C'est passé très très vite, Fabrice. On a appris plein de choses sur vous. Votre plus grande fierté dans cette aventure ?
Ah, ma plus grande fierté, ben, c'est sortir des vins tous les ans qui me ressemblent. C'est un bébé chaque année. Pour un mec, c'est pas mal. C'est une belle satisfaction.
Et alors, quand on a une plus grande fierté, qu'est-ce qu'on a rencontré comme plus grande difficulté dans cette aventure ?
Ah ben, la difficulté, c'est tous les jours qu'on traverse maintenant. C'est cette période, on est dans le dur. Là. On est dans le dur, on espère que cette récolte sera généreuse avec nous, à la fois en quantité et en qualité, parce qu'on est vraiment dans le dur et tout le milieu viticole est en souffrance.
On prend bien conscience de la fierté, de la difficulté, et on comprend encore plus le jeu de mots avec aventurier, A-V-I-N. Aventurier qu'on peut retrouver sur tous les réseaux, je suppose, et qu'on peut venir vous rencontrer pour découvrir vos vins et rencontrer Toto. Dans la commercialisation, dans la production, je suis sûr que vous avez l'anecdote la plus drôle du patron de l'année.
Oh, j'en ai plein, parce que l'avantage d'être tocard soi-même, c'est qu'on attire les autres tocards. Donc, c'est assez intéressant. Si on doit en retenir une, je pense que c'est une récolte d'il y a 3-4 ans, où pendant la récolte donc, du Mont Basiac, on a des vendangeurs qu'on emploie, qui viennent la plupart du temps de partout en France. L'avantage, c'est que nous, on récolte des Mont Basiac. C'est des vins qui se ramassent très tard dans la saison. Donc, c'est des jeunes, généralement. Moi, j'appelle ça des pulls qui piquent ou des bottes people. C'est des gars qui font les saisons en camping-car. Ils sont généralement très souvent rigolo et attachant.
C'est une caricature, Fabrice.
Oui, avec des looks pires que moi, c'est pour dire. C'est pour ça qu'on s'entend très très bien. Et là, cette année-là, j'ai eu 7 ou 8 drôles, je dis des drôles, mais qui avaient entre 25 et 35 ans, qui sont arrivés avec des camping-cars tout bringue-ballant. Et ça a été la plus grosse vendange, épopée de vendange qu'on ait eue. C'est-à-dire que ça s'est fini sur des week-ends à faire des barbecues, à faire des concours de fléchettes avec eux. C'est un truc innommable. On a démarré le samedi matin avec le casse-croûte et je leur ai laissé les clés du chai parce qu'au bout d'un moment, il faut aller dormir. Et donc, ça a été du samedi matin jusqu'au dimanche dans la nuit, non-stop le week-end avec eux. C'était vraiment terriblement bien, avec de la danse, avec des jeux et tout. On se rend compte que c'est pas parce qu'on a un look un peu bizarroïde, c'est pas parce qu'on a des cheveux dressés, c'est pas parce qu'on a des dreadlocks, c'est pas parce qu'on a des tatouages, qu'on est des gens pas bien. Donc en fait, le look, c'est juste une étiquette, c'est juste une revendication. Mais au fond, à l'intérieur, bien souvent, les gens sont super, super cool.
Pas se prendre au sérieux, travailler sérieusement, ça peut être la philosophie des aventuriers.
Alors, moi, j'ai une philosophie toute particulière. On m'a déjà dit que le vin, c'était fait par des gens sérieux pour des gens sérieux. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je fais mon travail le plus sérieusement possible sans jamais me prendre au sérieux.
Fabrice, merci beaucoup de nous avoir présenté votre aventure. Je vous remercie de nous avoir rejoints chez RVB. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, les entreprises ont un nom, les histoires ont un visage. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup pour l'invitation et longue vie à l'émission.
C'est qui le patron ? L'émission qui met à nu les patrons.